7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est PDG d'Orange.
Bonjour à vous Stéphane Richard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin et bravo.
Merci.
Vous savez pourquoi je vous dis bravo? Parce qu'avec Xavier Niel, vous avez gagné la guerre médiatico-économique de cette rentrée puisque vous avez contraint le groupe de BFM à revoir à la baisse ses ambitions financières en appuyant sur le bouton nucléaire. Vous avez coupé le signal de BFM TV et des autres chaînes du groupe. Vous chez Orange pendant 36 heures, Free pendant 2 semaines. L'écran noir pour tordre le bras et forcer quelqu'un à la négociation. C'est comme ça qu'on fait dans le business. Vous direz que c'est une méthode qui est bonne, qui est fair, qui est honnête.
Qui a déclenché les hostilités? Ce ne sont pas les opérateurs. Depuis des années, nous transportons ces chaînes, je pense pour le bénéfice de nos téléspectateurs, sur un équilibre économique qui est très simple. Au fond, une chaîne gratuite, ça se rémunère sur l'audience et sur la publicité. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons en diffusant ces chaînes? Nous apportons plus d'audience et donc plus de recettes publicitaires. Cet équilibre, il a été rompu de façon totalement unilatérale par certaines chaînes. L'année dernière, TF1 et M6, cette année, BFM. Nous n'avons rien demandé à personne. Et quand on prend,
oui, mais vous avez cédé à TF1, mais pas à BFM. Alain Veil a dit, vous avez payé pour diffuser TF1 et M6, mais pas BFM. Alors, manifestement, on n'est pas TF1.
Soyons tout à fait clairs là-dessus. Avec TF1, on a passé un accord qui ne porte pas justement sur la partie gratuite des chaînes, mais sur les services associés. Vous savez bien qu'aujourd'hui, les gens consomment la télévision différemment. Ils consomment la télévision de rattrapage, ils font du replay, ils font du start-over, toutes ces choses-là. Ces services-là, on peut les proposer sur des box, parce qu'on a de la technologie qui le permet. Donc on voit bien que pour ceux qui regardent ces chaînes sur les box, il y a des services particuliers qui justifient une rémunération. Il y a 1 500 000 personnes qui utilisent le replay de TF1 chaque jour. Il n'y en a pas sur BFM.
Donc vous dites à BFM, développer le replay, on paiera, c'est ça?
Oui, s'il y a des services associés sur les chaînes Altis, bien entendu, on est prêt à regarder la rémunération de ces services.
Donc cette nuit, Xavier Niel a enterré l'âge de guerre, il a accepté de rétablir le signal de BFM TV. Il était temps qu'il appuie sur le bouton on, qu'il remette le signal.
C'est surtout aux téléspectateurs que je pense, moi. Parce que dans cette affaire, c'est quand même eux, quelque part, qui sont les victimes.
Ils ont pris en otage, si j'ose dire. Parce que vous, vos 12 millions d'abonnés, vous leur avez coupé BFM TV, qui est donc la première chaîne d'info de France, parce que c'est pas n'importe quelle chaîne que vous avez coupé. 12 millions d'abonnés, Free, c'est 6 millions d'abonnés, pas de chaîne d'info.
D'abord, des chaînes d'info, il y en a beaucoup. Il y a aussi des radios qui sont très bonnes dans l'info, comme celle où je m'exprime ce matin. Donc on peut pas dire que l'offre soit pas suffisamment diversifiée. Deuxièmement, ceux qui prennent les téléspectateurs en otage, c'est surtout les éditeurs de chaînes qui prennent le risque effectivement de se couper de millions de foyers pour, au fond, une demande qui est complètement paradoxale par rapport à leur modèle économique, une fois de plus. Nous ne prenons pas de la valeur en chaîne, nous leur en apportons.
Ouais, j'entends votre... Donc il était temps qu'ils remettent que Xavier Niel, ça suffisait l'humiliation d'Alain Veil.
Il était surtout temps pour ceux qui font ce métier de la télévision et qui cherchent les téléspectateurs, oui.
C'est pas n'importe quel contenu, hein. C'est une entreprise de presse, BFM TV, elle prend des risques, elle envoie ses journalistes sur le terrain, elle les paye pour produire de l'information, pour faire vivre le débat. Je pose la question aux citoyens, Stéphane Richard, pas au patron. Vous pensez pas qu'un média d'information a un rôle particulier dans la démocratie et que vous avez eu un peu une vision comptable dans cette affaire?
Alors, qu'un média d'information ait un rôle particulier, oui, c'est une évidence. Après, ce qui compte, c'est la pluralité aussi. Je vous rappelle qu'il y a au moins 4 chaînes d'infos continues. Donc, quand on peut regarder BFM, on peut aller regarder France Info, par exemple, qui est une très bonne chaîne d'infos.
On va s'arrêter là.
Voilà, et je ne vais pas en citer d'autres.
Non, on va pas en citer d'autres. Mais c'est étonnant que vous dites ça, parce que Dominique Seux avait fait un édito sur ça la semaine dernière en disant, en laissant entendre que certains disaient qu'ils voyaient la main du gouvernement dans le fait que vous ayez coupé le signal, comme si le gouvernement voulait faire payer le traitement des gilets jaunes par BFM TV.
Ça, c'est du fantasme. C'est du fantasme. Moi, ça fait 10 ans que je dirige une entreprise dans laquelle l'État est actionnaire. Et chaque fois qu'on a un sujet comme ça, on se dit toujours, il y a la main du gouvernement derrière. Donc je vais être très clair, il n'y a aucune main du gouvernement, je n'ai pas reçu le moindre appel ni la moindre intervention sur ce dossier. Je m'occupe d'Orange, j'essaie de défendre les intérêts d'Orange, et quand il y a une situation qui me paraît totalement injuste et anormale, eh bien je la combats.
Effectivement, l'État possède 23% d'Orange via la BPI France. Vous aviez dit par le passé que vous n'étiez pas contre une privatisation totale d'Orange, vous le pensez toujours ?
Il ne m'appartient pas à moi de décider ce que l'État doit faire. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'opérateurs dans le monde où l'État n'est pas présent au capital. L'État a d'autres moyens d'ailleurs de peser sur ce secteur. C'est bien d'avoir l'État actionnaire, ça a beaucoup d'avantages, ça peut avoir quelques inconvénients à certains moments. Moi, mon job, ça consiste à préparer l'entreprise à toute éventualité. Donc si jamais un jour, pour des raisons qui me dépassent, l'État décide de sortir du capital d'Orange, je pense qu'on est tout à fait prêt à cela. Mais c'est pas mon souhait. Et c'est pas le souhait, je pense, non plus des salariés d'Orange.
C'est pas votre souhait.
Non.
Dans son nouveau livre Capital et idéologie, Thomas Piketty propose plusieurs choses pour réduire les inégalités, et notamment la cogestion en entreprise où les salariés se partageraient 50% des sièges des conseils d'administration et où les droits de vote des grands actionnaires seraient plafonnés à 10%. C'est une bonne idée?
Bah écoutez, moi si je prends l'exemple d'Orange, j'ai 4 représentants des salariés à mon conseil, 4. Les salariés sont actionnaires, sont le deuxième actionnaire de l'entreprise, presque 10% des droits de vote. On n'est pas tout à fait dans la cogestion, mais ils pèsent quand même très 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 lourd dans le débat. J'ai même d'ailleurs introduit un salarié dans le comité de rémunération, puisque c'est aussi un sujet sensible. Donc je trouve que Orange est une entreprise qui intègre assez bien finalement la voix de ses salariés et qui essaye toujours aussi de regarder comment la valeur ajoutée se répartit. À ce titre, juste un chiffre, il y a quand même plus de 40% de la valeur ajoutée produite par l'entreprise qui va vers les salariés, et ce pourcentage n'a pas cessé d'augmenter en fait ces dernières années.
Piketty dit aussi qu'il faut taxer plus fortement les très riches, et Simon, que les milliardaires notamment ne sont pas nécessaires à l'intérêt général, il est pour un impôt progressif qui irait jusqu'à 90%. Pour les très riches, ceux qui gagnent plus de 2 milliards. Une taxe de 90%, ça vous fait rire? Ça vous semble de la folie ou au fond, pourquoi pas?
Qu'est-ce qui fait fonctionner l'économie? C'est l'innovation, c'est l'esprit d'entreprise. Qui a créé les grandes entreprises aujourd'hui qui nous ont apporté du progrès, de la technologie, des nouveaux services, quelque part un bien-être individuel et collectif important? Ce sont les entrepreneurs. Si demain matin vous expliquez à un entrepreneur...
C'est aussi les salariés et les travailleurs.
Oui, bien sûr, mais les salariés participent à ça, bien évidemment, mais il faut quand même qu'il y ait, dans n'importe quelle société, des gens qui, à un moment, s'avancent, prennent des risques. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la perspective d'être taxé à 90% si on réussit, va encourager l'esprit d'entreprise? J'ai tendance à penser que non.
Donc ce serait une folie de faire ça, les chefs d'entreprise partiraient.
Vous savez, on a un peu essayé ça quand même dans les pays communistes pendant quelques décennies.
Alors, Piketty a dit que ça a été fait pendant des décennies aux États-Unis, qui n'est pas franchement un pays communiste, jusqu'à Reagan, que les très très riches étaient très 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 fortement
taxés. Ils étaient
taxés.
Très taxés sur la transmission, qui est un vrai sujet d'ailleurs. Moi je trouve que le vrai débat c'est l'impôt sur la succession. Parce qu'au fond, il y a la plus grande inégalité, c'est de naître riche ou de naître dans une famille pauvre.
Il faudrait changer l'impôt sur la succession en France.
Moi je serais personnellement partisan qu'on taxe beaucoup plus fort les successions, parce que je trouve que c'est ça qui est vraiment à l'origine de l'inégalité, beaucoup plus que la réussite individuelle. La réussite individuelle, au contraire, il faut l'encourager, et la fiscalité ne doit pas être punitive par rapport à l'esprit d'entreprise, une fois de plus.
Stéphane Richard, vous êtes un des rares patrons du CAC 40 qui donne sans problème son salaire. C'est quoi votre salaire?
Mon salaire de cette année, enfin de l'année dernière, c'est 1,6 million d'euros.
Ouais, c'est trop.
Et je paye 41% d'impôts.
Et c'est trop, à votre avis?
On peut le penser. J'ai pas le plus gros salaire du CAC 40, hein, loin s'en faut.
Vous êtes l'un des derniers d'ailleurs.
Oui, mais je trouve que dans ce débat, ce qui manque, c'est toujours l'aspect fiscal, justement. Parce qu'on compare en fait des niveaux de salaire sans prendre en compte l'impôt. Moi, je paye 41% d'impôt. Ça fait quand même plus de 700 000 euros par an.
On en est où du déploiement de la 4G et de la fin des zones blanches? Emmanuel Macron avait fixé l'objectif de garantir d'ici 2020 un accès au bon haut débit sur tout le territoire et le très haut débit pour 2022. Vous allez y arriver, oui ou non?
Oui, on va y arriver. La 4G, on est à 99% de la population couverte à la fin de cette année. La fibre, on a 13,5 millions de foyers français qui sont desservis par la fibre optique. Soit dit en passant, Orange et le premier opérateur de fibre optique en Europe, 35 millions de foyers, et on vient de dépasser les 3 millions.
Donc vous allez tenir
oui,
l'objectif.
On va tenir les deux objectifs, celui de 2020 et celui de 2022. On aura 20 millions de foyers français avec la fibre optique en 2022.
On en est où de la 5G? La France est un des pays les plus en retard du monde, derrière l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Corée. Pourquoi on est si à la bourre sur la 5G? Et ça arrive quand? L'année prochaine?
Ouais, ça arrive l'année prochaine. On est un peu en retard, oui, parce que pour faire de la 5G, il faut des fréquences particulières. Ces fréquences, on va pouvoir les obtenir seulement dans quelques semaines. Et nous pensons lancer commercialement la 5G au printemps 2020.
Dernière question, vous étiez le directeur de cabinet de Christine Lagarde quand elle était à Bercy. Elle prend la tête de la BCE alors qu'elle n'est pas une spécialiste des politiques monétaires. C'est un bon choix, Christine Lagarde, la BCE?
Je crois qu'elle a démontré, à la fois à Bercy et surtout au FMI, qu'elle était parfaitement à l'aise avec ses problématiques financières internationales et monétaires. Je suis persuadé qu'elle fera une excellente présidente de la BCE, oui.
Stéphane Richard était notre invité. Belle journée à vous, merci.
Merci.